30 minutes s'écoulèrent dans le silence le plus profond. Rénine se promenait à travers la pièce où de beaux meubles anciens, de belles tapisseries, des reliures et de jolis bibelots dénotaient chez Jean-Louis une recherche d'art et de style. Cette pièce était réellement la sienne. À côté, par les portes entrouvertes sur les logements contigus, on pouvait constater le mauvais goût des deux mères. Rénine se rapprocha du jeune homme et murmura
« Elles sont riches ?»«
Oui. »«
Et vous ?»«
Elles ont voulu que ce manoir avec toutes les terres environnantes m'appartint, ce qui assure largement mon indépendance. »
Elles ont de la famille ?
Ou des sœurs, l'une et l'autre.
Auprès de qui elles pourraient se retirer ?
Oui, elles y ont pensé quelquefois, mais monsieur, il ne saurait être question de cela. Et je crains bien que votre intervention n'aboutisse qu'à un échec. Encore une fois, je vous affirme...
L'automobile arrivait cependant. Les deux femmes se levèrent précipitamment, déjà prêtes à parler. « Laissez-moi faire. » Et ne vous étonnez pas de ma façon de procéder. Il ne s'agit pas de lui poser des questions, mais de lui faire peur, de l'étourdir. Dans son désarroi, elle parlera. L'auto contourna la pelouse et s'arrêta devant les fenêtres. Hortense sauta et tendit la main à une vieille femme, coiffée d'un bonnet de linge tuyauté, vêtue d'un corsage de velours noir et d'une lourde jupe froncée. Elle entra avec effarement. Elle avait un visage de belette, tout pointu, et qui se terminait en un museau armé de petites dents qui sortaient.
« Qu'est-ce qu'il y a, madame Dormival ? »
fit-elle en pénétrant avec crainte dans cette pièce d'où le docteur l'avait chassée jadis.
« Oh, bien le bonjour, madame Vaubois !»
Ces dames ne répondirent pas. Rénine s'avança et dit d'un ton sévère «
« Ce qu'il y a, mademoiselle Boussignol, je vais vous le communiquer et j'insiste vivement auprès de vous pour que vous pesiez bien chacune de mes paroles. »
Il avait l'air d'un juge d'instruction pour qui la culpabilité de la personne interrogée n'est point contestable.
« Mademoiselle Boussignol, je suis délégué par la police de Paris pour faire la lumière sur un drame qui a eu lieu ici il y a 27 ans. Or, dans ce drame, vous avez tenu un rôle considérable. Je viens d'acquérir la preuve que vous avez altéré la vérité et que, par suite de vos fausses déclarations, l'état civil d'un des enfants nés au cours de cette nuit-là n'est pas exact. En matière d'état civil, les fausses déclarations constituent des crimes punis par la loi. Je suis donc forcé de vous conduire à Paris pour y subir, en présence de votre avocat, l'interrogatoire de rigueur.
À Paris ? Mon avocat ?
Il le faut bien, mademoiselle, puisque vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrestation. À moins que vous ne soyez prête dès maintenant à faire tout aveu susceptible de réparer les conséquences de votre faute.
La vieille fille tremblait de tous ses membres. Ses dents s'entrechoquaient. Elle était manifestement incapable d'opposer à Rénine la plus petite résistance.
« Êtes-vous décidé à tout avouer ?»«
Je n'ai rien à avouer, puisque je n'ai rien fait. »«
Alors nous partons. »«
Non, non, non. Oh, mon bon monsieur, je vous en supplie. »«
Êtes-vous décidé ?»«
Oui. »
Immédiatement, n'est-ce pas ? L'heure du train me presse. Il faut que cette affaire soit réglée séance tenante. À la moindre hésitation de votre part, je vous emmène. Nous sommes d'accord.
Oui.
Allons-y carrément. Pas de subterfuge, pas de faux fuyant.
Il désigna Jean-Louis.
De qui, monsieur, est-il le fils ? De madame Dormival ?
Non.
De madame Vaubois, par conséquent.
Non.
Un silence de stupeur accueillit cette double réponse.
Expliquez-vous,
ordonna Rénine en regardant sa montre. Alors, mademoiselle Boussignol tomba à genoux et raconta,
d'un ton si bas et d'une voix si altérée qu'ils durent tous se pencher sur elle pour percevoir à peu près le sens de son bredouillement.
« Quelqu'un est venu le soir. Un monsieur qui apportait dans des couvertures un enfant nouveau-né qu'il voulait confier au docteur. Et comme le docteur n'était pas là, il est resté toute la nuit à l'attendre. Et c'est lui qui a tout fait.
Quoi ? Qu'a-t-il donc fait ? Que s'est-il passé ? »
Il avait saisi la vieille par les deux mains et la tenait sous son regard impérieux. Jean-Louis et les deux mères étaient penchés sur elle, haletants et anxieux. Leur vie dépendait des quelques mots qui allaient être prononcés. Elle les articula, ces mots, en joignant les mains, comme on fait la confession d'un crime.
« Eh bien, il s'est passé que ce n'est pas un enfant qui est mort, mais tous les deux, celui de Madame Dormival et celui de Madame Vaubois, tous les deux dans des convulsions. Alors, le monsieur, voyant cela, m'a dit, je me rappelle toutes ces phrases, le son de sa voix, tout. Il m'a dit, les circonstances m'indiquent mon devoir. Je dois saisir cette occasion pour que mon garçon, à moi, soit heureux et bien soigné. Mettez-le à la place de ceux qui sont morts. Il m'offrit une grosse somme en disant que ça le débarrasserait d'un coup des frais à payer chaque mois pour son gosse. Et j'acceptais. Seulement, à la place duquel le mettre ? Fallait-il que le garçon devienne Louis Dormival ou Jean Vaubois ? Il réfléchit un instant et répondit « Ni l'un ni l'autre ». Et alors, il m'expliqua comment je devais m'y prendre et ce que je devais raconter quand il serait parti. Et pendant que j'habillais son garçon avec des langes et des tricots, pareils à ceux de l'un des petits morts, lui, il enveloppa l'autre petit avec des couvertures qu'il avait apportées et il s'en alla dans la nuit. »
Mademoiselle Boussignol baissa la tête et pleura. Après un moment, Rénine lui dit, l'intonation plus bienveillante, « Je ne vous cacherai pas que votre déposition s'accorde avec l'enquête que j'ai poursuivie de mon côté. On vous en tiendra compte. »«
Je n'irai pas à Paris ?»«
Non. »«
Mais vous ne m'emmenez pas. Je peux me retirer. »«
Vous pouvez vous retirer. C'est fini pour l'instant. »
Et on ne causera pas de tout ça dans le pays ?
Non. Ah, un mot encore. Vous connaissez le nom de cet homme ?
Il ne me l'a pas dit.
Vous l'avez revu ?
Jamais.
Vous n'avez pas autre chose à déclarer ?
Rien.
Vous êtes prête à signer le texte écrit de votre confession ?
Oui.
C'est bien. Dans une semaine ou deux, vous serez convoqué. D'ici là, pas un mot à personne. Elle se releva et fit un signe de croix. Mais ses forces la trahirent et elle dut s'appuyer sur Rénine. Il la conduisit dehors et referma la porte derrière elle. Quand il revint, Jean-Louis était entre les deux vieilles dames et tous les trois se tenaient par la main. Le lien de haine et de misère qui les unissait était brisé tout à coup, et cela mettait entre eux aussitôt, sans qu'ils eussent besoin de réfléchir, une douceur et un apaisement dont ils n'avaient pas conscience, mais qui les rendait graves et recueillis. « Brusquons les choses, » dit Rénine à Hortense. « C'est l'instant décisif de la bataille. Il faut embarquer Jean-Louis. » Hortense paraissait distraite. Elle murmura
« Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous laissé partir cette femme ? Vous êtes satisfait de sa déposition ?»«
Je n'ai pas été satisfait. Elle a dit ce qui s'est passé. Que voulez-vous de plus ?»«
Rien, je ne sais pas. » »«
Nous en reparlerons, cher ami. Pour l'instant, je le répète, il faut embarquer Jean-Louis. Et tout de suite, sinon... » Et s'adressant au jeune homme, il dit « Vous estimez comme moi, n'est-ce pas, que les événements vous imposent ainsi qu'à Madame Vaubois et à Madame Dormival, une séparation qui vous permettra à tous trois de voir clair et de vous résoudre en toute liberté d'esprit. Venez avec nous, monsieur. Ce qu'il y a de plus urgent, c'est de sauver Geneviève Aymard, votre fiancée. » Jean-Louis demeurait perplexe. Rénine se retourna vers les deux femmes. « C'est votre avis. Je n'en doute pas, n'est-ce pas, mesdames ?» Elles firent un signe de tête. « Vous voyez, monsieur, nous sommes tous d'accord. Dans les grandes crises, il faut le recul de la séparation. Oh, pas bien longtemps, peut-être quelques jours de répit, après lesquels il vous sera loisible d'abandonner Geneviève Aymard et de reprendre votre existence. Mais ces quelques jours sont indispensables. Vite, monsieur !» Et sans lui laisser le temps de réfléchir, l'étourdissant de paroles, persuasif et obstiné, il le poussa vers son appartement. Une demi-heure après, Jean-Louis quittait le manoir.